composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
Okay. La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.
Et après, j'ai des questions à vous échanger entre vous.
Impec.
Voilà, de retour en direct, toujours dans la salle du jeu de paume, sur le 91.1, pour la fête de la récup, deuxième édition. Et à 14h, voilà, il est 14h, et on se retrouve bien accompagné, puisqu'on a quatre invités autour de la table, qui représentent un collectif, à plusieurs associations, qui travaillent autour d'une question qu'on va dire commune. Bon, je pense qu'en plus, en tout cas, mes invités se connaissent déjà, ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Voilà, on va parler de la valorisation de ce qui a déjà été utilisé, les ressourceries et les recycleries. Alors, les objets que vous valorisez étaient pendant longtemps voués à être jetés. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas puisque de nombreuses personnes commencent à modifier leur comportement face à ces choses dont ils ne voient plus l'intérêt. Et c'est là où vous intervenez. Et en plus, vous représentez des lieux qui sont repérés pour leur capacité à récupérer, à remettre en circulation toutes sortes d'objets, du vêtement aux objets culturels, du vélo à l'ordinateur, de la vaisselle au mobilier. Alors, pour en parler, j'ai quatre invités autour de la table. Deux représentants de l'association ADEPA, Brigitte Escoffre et Pierre Sommier. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Un représentant de la ressourcerie Les Bonnes Manières, Cédric Marbuse. Bonjour.
Bonjour.
Et un représentant de Vélo 41, Lucien Cholet.
Bonjour.
Voilà, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation rapide de vos structures respectives? On va commencer par Vélo 41.
Donc Vélo 41, c'est une association qui existe depuis 17 ans et qui depuis maintenant 6 ans, je crois, propose un atelier d'auto-repération de vélo. Donc c'est un principe qui existe partout en France, dans beaucoup de villes, et donc l'idée est que tout un chacun peut venir à l'atelier et apprendre à réparer son vélo et trouver les outils et les pièces détachées disponibles qui sont essentiellement du réemploi.
Voilà. D'accord. Alors les bonnes manières, alors Vélo 41, on vous connaît déjà à la radio, hein, parce qu'on a déjà vous avez déjà eu l'occasion de vous présenter. Pareil pour vous, la ressourcerie Les Bonnes Manières. Mais comment est-ce qu'on peut aller pour les gens qui vous connaîtraient pas encore, qui écouteraient pas Zef, sauf là aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait présenter la ressourcerie?
La ressourcerie, c'est un acteur du réemploi, un peu comme les Vélos 41, si ce n'est que Vélo 41, à l'origine, ils sont animés par une passion autour du vélo. C'est-à-dire que je pense qu'à l'origine, les premiers ateliers d'autoréparation vélo n'avaient pas forcément conscience de l'aspect vertueux de la réparation. On est un acteur du réemploi au même titre qu'Emmaüs, mais Emmaüs le fait philosophiquement et depuis toujours dans une philosophie, on va dire, solidaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas solidaire. Je crois que tous les acteurs ici autour de la table ont ce souci d'être abordable et accessible. Donc nous, la différence, c'est qu'on est un acteur du réemploi, mais avec cette conscience en plus de l'optimisation de la durée de vie des objets. On est là pour proposer l'allongement de la durée de vie des objets. Alors il y a trois solutions. Il y a le réemploi, c'est-à-dire on n'a plus besoin de quelque chose, quelqu'un d'autre en a peut-être besoin, il nous l'amène. Ensuite il y a la réutilisation, il y a la transformation, on peut transformer la fonction de l'objet. Voilà, par exemple, une armoire qui n'a plus de porte peut devenir une belle étagère, c'est aussi simple que ça. Et puis pour éliminer tous ces objets qu'on ne peut pas réparer, l'idée c'est d'éliminer le plus proprement possible, c'est-à-dire le recyclage, qui n'est pas la meilleure des solutions puisqu'elle consomme de l'énergie. Le recyclage, ça consomme de l'énergie, donc c'est pas idéal. Mais voilà, donc il vaut mieux réutiliser, réparer, etc. Mais voilà un petit peu ce que l'on fait. Donc nous, on est généraliste sur la question. Après, sur le territoire blésois, on a en effet Vélo 41 qui fait du vélo, donc on n'a pas de raison de développer la filière vélo. On a ADEPA ici qui présentera son activité et qui fait de l'informatique. Donc on n'a pas de raison de développer de l'informatique. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer des synergies, si elles sont possibles, entre différents acteurs avec les savoir-faire spécifiques de chacun. Voilà.
D'accord. Alors on a entendu déjà un début d'explication de ce qu'est l'ADEPA. Comment est-ce que vous pourriez du coup expliquer, compléter ce qui vient d'être dit déjà, Brigitte?
Alors je vais parler avant Pierre, que je laisserai sur la partie technique.
D'accord.
Donc l'ADEPA, effectivement, c'est une ressourcerie informatique qui existe à Blois depuis 2003, qu'on essaye de faire connaître parce qu'on a un petit défaut de visibilité malheureusement, mais on est dans une mouvance actuelle où il est important de recycler. Donc On récupère du matériel informatique auprès de particuliers qui nous font des dons, auprès d'entreprises ou d'associations qui refont leur parc informatique. Et à partir de là, quand ça arrive dans notre atelier, soit on les recycle parce qu'on peut les remettre au goût du jour et ça peut repartir à la vente avec des tarifs associatifs, ou alors on les désosse pour les décomposer et mettre les différents composants dans les bonnes filières pour que ça n'aille pas directement dans des bennes et que ce soit... voilà. Donc, pour faire fonctionner cette ressourcerie informatique, eh bien, on a trois personnes, trois salariés. Donc, on a une secrétaire comptable qui accueille les clients, enfin les adhérents, puisqu'on est une association, et deux techniciens, donc le responsable technique de l'atelier et un technicien informaticien, la personne de Sébastien. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pierre, parce qu'eux, ils sont en première ligne quand il s'agit de récupérer un ordi et de voir ce qu'on peut en faire.
Ben, merci Brigitte. Bah, tout à fait. Bon, donc, nous ressourçons, nous récupérons, nous reconditionnons. Nous faisons aussi de la réparation pour particuliers et de la formation. On est assez complet. En ce moment, on s'occupe de la SOS numérique avec la médiathèque de Blois.
D'accord.
On fait des formations sur téléphone portable, par exemple. Voilà. De la formation de base sur la téléphonie, sur les tablettes ou sur l'informatique.
Pour permettre aux gens de mieux utiliser leurs outils, optimiser la durée de vie.
Tout à fait. Bah, c'est surtout aider, parce que je pense que l'informatique, les gens en ont de plus en plus besoin et ils ne pensaient pas qu'ils en auraient besoin à ce point-là. Donc on est aussi là pour les un peu plus les guider, un peu plus les aider pour pas que ça devienne un truc trop compliqué pour eux, quoi. Pour pas que ça reste compliqué.
D'accord.
Voilà, donc on a une activité donc formation et technique en définitive.
D'accord. Alors moi j'ai le sentiment, vous avez tous des structures qui sont différentes, qui ont des modes d'intervention différents, mais il y a quand même un point commun, en dehors des valeurs, des idéaux, des convictions de réemploi, c'est que vous collectez un certain nombre d'objets. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, alors ADEPA vous avez commencé un petit peu à nous raconter la collecte, est-ce
oui.
que c'est forcément du don volontaire ou est-ce que vous pouvez aller plus loin?
Alors, il y a du don volontaire, il y a des gens qui viennent spontanément à l'ADEPA nous amener... un ancien PC qui est au rencard depuis quelques années, une imprimante. On a aussi des entreprises qui, quand elles changent leur parc informatique, nous amènent leurs anciennes tours, leurs ordinateurs portables. Et des écrans et toutes sortes de matériel informatique. Et aussi, on va chercher aussi des entreprises pour... nous faire connaître et éviter qu'elles jettent à la benne des choses qui pourraient intéresser des personnes pour qui n'auraient pas réellement beaucoup de moyens ou même et qui on est, comme disait Pierre, on est tous obligés d'en passer par l'informatique au jour d'aujourd'hui. Donc notre but aussi, c'est de lutter contre ce qu'on appelle l'e-exclusion. On ne pourra pas lutter à 100% contre. Il y aura toujours une partie de la population qui sera... notre but, c'est vraiment ça, d'accompagner au maximum. On récupère et puis on va au chercher aussi. Voilà. Donc, avis à bon entendeur. On travaille
exactement,
avec Monsieur Marmuse aussi. Des bonnes manières. Quand on a
des
choses qui nous... On fait des échanges. Nous, on a des gens qui nous amènent des trucs, c'est pas dans notre domaine, on les emmène à Monsieur Marmuse de bonne manière, et puis vice-versa. Si là,
Alors, pour la collecte, pour les bonnes manières, c'est pareil?
Alors, nous, on fonctionne seulement, en effet, en apport volontaire, parce qu'il y a différentes façons de collecter. On peut collecter à domicile, on peut collecter directement en déchetterie dès lors qu'on a un accord avec l'agglo, etc.
Je crois que c'est le cas de Vélo 41, alors, qui vous en parlerez juste après, oui.
Ouais. Alors, nous, pour l'instant, on ne le fait pas. On n'est qu'en apport volontaire. Et alors, pour être tout à fait honnête, on aimerait bien développer les solutions pour les usagers, pour qu'évidemment ils aient des solutions près de chez eux, faciles d'accès, etc. Après, nous, nos capacités ne nous permettent pas aujourd'hui forcément d'aller au-delà. On espère se développer. Je pense que ça se fera dans un cadre coopératif avec les gens qui sont autour de cette table et notamment aussi avec la collectivité qui traite les déchets. Donc Aglopolis et aussi Valeco. Il y a aussi de l'information, mais ça, je pense que dans les quelques mois qui viennent, ce sera fait dans les déchetteries pour informer les usagers en disant il y a des structures qui peuvent collecter tels et tels objets. Donc nous, on est généraliste. On a tendance à dire qu'on fait l'équipement de la personne ou de la maison. Donc c'est du linge de maison, des vêtements, des livres, des jouets, du petit meuble, voilà, des choses courantes. Mais on a, et ça, c'est bien qu'on commence à le faire, enfin qu'on le fasse, c'est d'orienter, nous, pour les vélos. Alors après, voilà, vous aussi, vous débordez un peu, mais quand on a des vélos, bah, on fait connaître Vélo 41 aux gens en disant bah non, on ne vend pas de vélos, on ne récupère pas les vélos, parce qu'on a déjà une association qui est un peu spécialiste sur le sujet. Pareil pour l'informatique, nous, on n'en fera rien, allez directement à Depa si vous pouvez. Alors après, des fois, les gens ne peuvent pas. Quand les gens voilà. nous disent ça finira à la benne, on fait non, bah, c'est pas grave, on prend quand même. Et puis on s'arrange après. Voilà.
Donc il y a déjà quand même une petite coordination oui. entre les.
Et donc, alors, Vélo 41, ouais. De même pour Vélo 41, où pareil, on n'a pas forcément la structure et la main-d'œuvre disponible pour aller chercher des vélos chez les particuliers, etc. Donc c'est surtout tout un chacun, on va dire, hein, voilà, des Blaisois qui apportent des vélos qu'ils n'utilisent plus sur notre site d'atelier. J'en profite pour dire que dans 2 semaines, on déménage à La Quinière, au 6 rue Descartes. Et après, la deuxième source de vélo qui est super importante là depuis un an, c'est donc une convention avec la déchetterie Nord de Blois. Donc là, j'en profite pour remercier toute l'équipe de la déchetterie, parce que vraiment, c'est une petite chance. Et donc là, tout à l'heure, comme ils sont aussi présents à la fête de la récup, on me disait qu'ils avaient noté le nombre de vélos qui étaient amenés à l'atelier. Donc là, je peux dire qu'on a eu 170 vélos en plus ou moins en bon état amenés sur un an. Qui sont arrivés à Vélo 41, et donc on a plus ou moins tous réparé selon si c'était possible ou pas, et surtout, en fait, vu que c'est important, revendu. Donc en fait, la déchetterie Nord de Blois et indirectement tous les Blaisois et Aglopolis participent à l'autofinancement de Vélo 41, quoi. Donc le réemploi, c'est pas notre objectif en soi, mais en fait c'est notre
activité principale,
c'est notre trésorerie, quoi, aussi.
Ouais, voilà. Oui, donc on peut pour bien comprendre comment ça fonctionne, les gens qui pourraient pas venir les soirs d'atelier que vous proposez régulièrement peuvent venir à la déchetterie Nord pour déposer des vélos. Les vélos sont mis de côté.
Ouais, et donc ce que j'ai pas dit, qui est aussi très important, c'est la déchetterie qui nous apporte les vélos sur site.
D'accord.
Donc sinon on pourrait pas du tout être aussi régulier pour aller chercher les vélos régulièrement à la déchetterie, quoi.
Ouais. Et donc alors la plupart des vélos qu'on vous amène, ils sont dans quel état ?
On va dire les particuliers dans l'ensemble, ils sont en très bon état. Donc c'est souvent des gens qui font plus de vélo, dont les enfants sont partis, voilà, il y a plein de cas possibles, mais c'est des vélos qui dorment depuis longtemps, on va dire. La déchetterie, c'est très varié. Ça va de eux, ils prennent pas le temps de faire le tri, ce qui est normal. Donc il y a du vélo en très bon état au vélo quasiment entièrement cassé, dont nous on récupère les pièces. Et donc là, il y a de tout. Ouais, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste des choses en très bon état, sinon on n'en ferait pas la demande, quoi.
D'accord. Et pour vous aussi, l'état des objets que vous récupérez, globalement, ça donne quoi? Alors, pour le matériel informatique, ça doit être très variable.
Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a vraiment de tout. Comme de toute façon, on est une ressourcerie. Par exemple, sur un ordinateur portable, on a un clavier, on a un écran. Tout ça, nous, on le stocke. Si ce n'est pas utilisable, on va le stocker. Et ça peut être utilisable après pour d'autres ordinateurs. Ou si on a les pièces pour cet ordinateur, on va le remettre de guingois. Et puis, il est reparti dans la chaîne.
Alors, est-ce qu'il y a quand même des objets informatiques que vous avez du mal à récupérer, ou vous vous dites, bah, on va pas réussir à en faire grand-chose?
Le gros problème, c'est les imprimantes à jet d'encre.
D'accord.
Les imprimantes à jet d'encre, ça coûte plus rien. C'est du jetable. C'est presque plus jetable que les cartouches qu'il y a dedans. C'est hallucinant. Donc, on a arrêté d'en vendre. On les prend pour le démantèlement, parce qu'on travaille quand même avec la Croix-Rouge. Hein. Toutes les pièces que nous, on récupère pas, la Croix-Rouge récupère et fait les métaux et les plastiques. Faut pas oublier que nous, on est une filière D3E. On fait partie de la filière.
D3E ?
Alors, les D3E, c'est tous les déchets électroniques. Et d'accord. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec les entreprises, parce qu'eux, ils ont besoin aussi de nous pour déposer leurs D3E. Donc, nous, on fait des bordereaux de déchets en acceptation de ces déchets-là. C'est assez spécifique. Et après, on fait pareil avec la Croix-Rouge. Ce qui fait qu'il y a un grand suivi, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi maintenant européen, et un grand suivi sur les D3E, et on fait partie de cette filière.
Vous pouvez peut-être nous dire rapidement ce que... Alors ça, c'est la troisième filière dont vous parliez de traitement de ces objets-là, c'est la filière recyclage. C'est pour les objets dont on ne peut plus faire grand-chose.
Les D3E, c'est spécifiquement l'électronique.
D'accord.
Voilà. Donc nous, on est la partie informatique, mais quand on va nous donner, on va dire, des téléphones fixes, par exemple, que nous, on ne peut pas utiliser, c'est une filière des 3E qui va aller se finir démanteler, puis à la Croix-Rouge.
D'accord.
Où eux, ils vont finir et ils ont des accords après avec les entreprises pour l'électronique finale, pour qu'ils soient recyclés.
Et concrètement, est-ce que vous savez ce qu'on récupère de ces objets-là qui finissent dans la filière des 3E au niveau déchets, au niveau matériaux?
Vous voulez dire au niveau des types de matériaux?
Oui.
Bah, les types de matériaux, donc on dispatche le lithium, les aciers, le cuivre, l'aluminium. Après, sur les cartes mères, vous avez tout le tableau des éléments, hein, périodique des éléments. Hein, donc du tantal, tous les lanthanides, tout ce que vous voulez. Il y a tout. Il y a tout en fait. Hein. C'est ça le problème, et c'est pour ça que c'est une filière très, très spécifique et qu'il faut qu'elle soit suivie, parce qu'il y a des métaux assez dangereux, en définitive des métaux lourds, en fin de chaîne, il faut qu'on sache où ils sont.
D'accord. Alors vous, au bonne manière, les objets que vous récupérez dans l'ensemble?
On fait aussi des D3E, non mais en fait c'est qu'on parle dans jargon barbare, mais on fait plutôt les PAM, les petits appareils en mélange. Non mais les D3E, c'est déchets d'équipement électrique et électronique, c'est pour ça qu'il y a 3E. Ouais. Qu'on comprenne un peu, parce que moi j'ai mis longtemps avant de comprendre ce que c'était D3E. Voilà, donc, et en fait, cette filière-là, elle est très organisée. En fait, quand vous achetez un appareil neuf, vous payez une écotaxe. Cette écotaxe, elle finance des éco-organismes. Ces éco-organismes sont là pour organiser les filières de collecte et de recyclage dont on fait partie. Voilà, pour faire simple. Donc, nous aussi, on fait un peu de D3E. Nous, on travaille directement avec un éco-organisme. Enfin, on va travailler. Bientôt, on attend les caisses grillagées, mais pour des contraintes de place, il nous faudrait des bennes, etc. Mais bon, on n'est pas à déchetterie. Aujourd'hui, en déchetterie, vous allez dans les déchetteries d'Aglopolis ou de Valeco, il y a déjà des bennes dédiées, etc. Donc, on rassure tout le monde, ne culpabilisez pas. Si vous avez des appareils électriques qui arrivent en déchetterie, ils partent aussi au démantèlement.
D'accord,
donc,
mais nous, le problème, c'est qu'en déchetterie, on vient déposer un appareil, mais il n'y a pas une vérification si l'appareil est encore en état et s'il peut resservir.
C'est là, où nos structures sont un échelon intermédiaire. C'est que ça permet, parfois, c'est tout bête, hein, ça va être une petite poussière, ça va être un petit court-circuit, enfin, ça va être absolument rien. Donc, en effet, nous, on a une phase de test, à DEPA, c'est ce qu'ils font avec les ordinateurs. Et nous, quand on a un appareil... Alors, nous, on a quand même quelques restrictions, non pas qu'on ne veuille pas sauver la planète, hein, bien au contraire, mais en fait, on gère vraiment des flux et c'est compliqué et c'est complexe et ça prend du temps. Un premier niveau de valorisation tout simple sur l'objet, ça peut paraître tout bête, hein, mais c'est... passer un coup de chiffon. En fait, un coup de chiffon sur 80 tonnes, ça fait déjà beaucoup de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier niveau de valorisation. Après, on fait tout ce qui est électrique, il y a une phase de test. Et ça permet de détecter parfois des petites pannes qui sont toutes bêtes. Ça peut être une petite vis, quelque chose. Donc, en effet, là, ça évite à un objet de partir dans une filière en démantèlement alors qu'il peut encore continuer sa vie. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous, il y a des objets que vous avez du mal à accepter parce que vous en avez trop, vous n'avez pas comment les...
Oui. Alors, c'est vrai que nous, on prend, on va dire, tout le reste. Hein. Alors, les vêtements, on prend tout parce que c'est pareil, on a une filière. Donc, c'est pareil, il y a un éco-organisme qui s'appelle EcoTLC. Quand vous achetez des vêtements neufs, c'est pareil, c'est le même système, vous payez une petite taxe, etc. Bon, la filière textile ne rapporte pas, voire elle coûte de l'argent. Mais en tout cas, elle existe pour envoyer au bon endroit les vêtements qui vont être boulochés, tachés, usés, etc. Donc ça, on n'a pas trop de restrictions sur les vêtements, si ce n'est qu'il ne faut pas que ce soit des vêtements qui soient humides, sales, qui pourraient contaminer le stock. Voilà, on demande que ce soit quand même des vêtements propres, pour des raisons d'hygiène évidentes. Ensuite, sur donc, les D3E, on demande à ce que les appareils soient en état d'usage. Par exemple, un petit combiné CD, cassette, radio. Si la fonction CD ne fonctionne plus et que vous adorez écouter des CD, on va considérer qu'il est encore utilisable. Et ça, nous, on va pouvoir le prendre. On informe le consommateur qu'il n'y a plus cette fonction qui existe. Alors parfois, en testant, en effet, là, pour le coup, la petite poussière, on va se rendre compte que ça fonctionne. Donc en effet, on a cette phase de test, mais on demande quand même que les choses soient en état d'usage. Sur les livres, c'est pareil, on en reçoit énormément des livres. On demande à ce que ce soit, par exemple, les encyclopédies 1970. Les savoirs ont beaucoup changé depuis. Donc, on dit aux gens, mettez-les directement dans les bennes de recyclage. Évidemment, mais n'était pas au tout venant, hein, ce serait idiot. Mais mettez-les directement au recyclage papier. On peut le faire maintenant dans les bornes d'Aglopolis. On peut mettre des livres. Alors, pas trop, mais on peut. En tout cas, ils savent les traiter, voilà, parce que ça pèse. On a une usine, nous, pas loin, à Marolles, Triselect, qui recycle le papier. Donc, nous, nos vieux livres abîmés, les couvertures déchirées, etc., partent du coup là-bas. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? En fait, on demande à ce que ce soit en état d'usage. D'accord. En général.
Ce qui est assez peu restrictif au final.
Oui, alors Aglopolis a mené avec Valeco, a mené une étude avec le réseau national des ressourceries qui nous a permis à tous, avec Vélo 41, à Adepa et d'autres, de se retrouver autour de la table. Et il y a eu ce qu'on appelle la caractérisation des déchets. Il y avait 1200 tonnes d'objets réemployables ou réparables. Et dans ces 1200 tonnes, il y avait environ la moitié qui était réutilisable en l'état. Donc 600 tonnes par an. Donc aujourd'hui, nous, nos capacités, nos structures, Emmaüs, la Croix-Rouge, on pas cette capacité-là. Donc on voit qu'il y a une marge par rapport au gisement qui est énorme. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de contradictions, parce qu'il y a des gens qui nous disent « oui, mais vous faut réparer, etc. » Sauf qu'en fait, on vit dans une société de surconsommation et on soupçonne même pas en fait toute l'accumulation en fait, que ça peut représenter. Donc c'est vrai qu'on demande déjà à réemployer ce qui peut servir déjà à quelqu'un d'autre. C'est déjà beaucoup.
Pour être très clair, vous avez parlé de caractérisation. Comment on pourrait le résumer ? C'est un inventaire des poubelles et on regarde, ouais. On fait une liste précise de ce qui est jeté,
oui.
Et on regarde voilà, les volumes de chaque.
Ouais. Alors sans rentrer dans les... Parce que bon, après c'est un peu technique, mais là en fait ce qu'ils ont fait c'est une caractérisation visuelle, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui est mis dans la benne. On voit hein, si la table elle a 4 pieds ou 3 pieds, voilà. Donc on sait que si elle a 4 pieds, elle est réutilisable. Même si, voilà. C'est à peu près ça la notion. Ça a été fait sur différentes déchetteries. Donc ça, c'est vrai qu'il faut voir avec Valeco et Aglopolis qui étaient on va dire, les porteurs de cette initiative, de cette étude. Mais en tout cas, c'est assez parlant et assez significatif. On voit bien qu'aujourd'hui, ça déborde.
Oui. Vous, à Vélo 41, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus ou que dont vous n'avez pas besoin et qu'on, voilà.
Là où ça bloque, c'est... en volume, c'est assez peu. J'aurais du mal à quantifier, mais sur un vélo, de toute façon, il y a toujours des choses à récupérer, des pièces détachées, etc. Donc ce qui peut rester, en fait, souvent, c'est les cadres. Quand je dis le cadre, c'est la fourche, ce qui fait la structure du vélo, quoi. Et ce qui revient souvent, donc soit c'est des choses qui sont cassées. Donc ça, dans l'ensemble, il y en a peu. Et par contre, ce qui nous encombre parfois, c'est les vélos, en fait, des vélos dits de supermarché. C'est-à-dire que c'est les objets qui nous entourent qui sont de mauvaise qualité et que les gens jettent parce qu'ils ont une durée de vie qui est courte. Et donc nous, on se retrouve là, j'accuse pas les gens qui nous apportent ces vélos, hein, mais c'est par défaut des objets qui vont finir à la déchetterie en ferraille parce qu'ils ont une durée de vie qui est courte et c'est des objets de mauvaise qualité. Quoi. Voilà. Alors, contrairement à beaucoup de vélos anciens qui nous reviennent et qui, eux, ont encore 10-15 ans et plus hein, si les gens s'en servent correctement de durée de vie.
D'accord. Oui, c'est lié à la qualité de production de ces vélos de masse et qui, du coup, ne résistent pas très très longtemps à l'usage. Quoi.
Tous les vélos qu'on peut acheter pour, on va dire, même à 200 euros, hein, même 200 euros un vélo neuf, dans l'ensemble, ça va être un vélo qui a une durée de vie assez courte. Donc tous les vélos neufs qu'on peut acheter en grande surface ou voilà, dans tout type de magasin, dans l'ensemble, c'est des vélos avec du plastique, donc dans les serrages, dans plein de petites pièces, et qui sont très lourds. Et donc juste le poids, déjà, quand on sous-pèse un vélo, c'est un bon moyen d'arriver à savoir de premier coup d'œil si c'est un bon vélo. C'est trop facile de dire ça comme ça, mais s'il est bien ou pas. Quoi.
Oui, en tout cas, c'est un conseil de... Voilà.
En fait, pas si c'est un bon vélo, je dirais plutôt sur la
qualité, la durabilité.
Voilà, on va dire l'attention portée à sa construction. D'accord. Ouais, je vais dire ça comme ça.
Ok. Autre point commun, la réparation. Est-ce que je ne sais pas si vous, c'est peut-être, j'ai un doute peut-être sur les bonnes manières. Est-ce que vous réparez des objets ?
Non, mais en effet, c'est une question que les gens se posent. On propose. Nous, sur notre activité quotidienne, nos salariés et bénévoles testent les produits qu'on reçoit. Donc, en effet, il peut y avoir des réparations minimes. Mais on ne répare pas. Nous ne proposons pas de service de réparation, contrairement à Adepa qui, eux, ont un service de réparation avec leurs ordinateurs. Par contre, on sensibilise à l'allongement de la durée de vie des objets en proposant des ateliers. Mais on est vraiment dans une logique de sensibilisation. On vient prendre du bon temps à la ressourcerie dans le cadre d'un atelier qui dure 2-3 heures. Ça peut être un atelier créatif. Qu'est-ce qu'on fait avec de la vaisselle cassée ? On peut très bien faire des mosaïques. On fait des ateliers d'auto-réparation de petits appareils en mélange, enfin de petits appareils électriques. Là, c'est... Ripper Café est un label, mais c'est l'esprit, on va dire. Voilà, on vient avec son objet, on échange avec des gens qui s'y connaissent un petit peu, souvent nos bénévoles. D'ailleurs, j'en vois un qui vient d'arriver là, sur le salon. Voilà. Et voilà, et on apprend de manière ludique à réparer. Mais en tout cas, nous, on ne propose pas de service de réparation. Voilà, donc les gens sont parfois un peu déçus, mais c'est quelque chose qui coûte. Vous n'allez pas peut-être en témoigner, mais c'est un vrai travail, c'est une vraie activité. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de la développer.
Alors par contre, du coup, au vélo 41, il y a des pas. Vous réparez, mais vous n'avez pas les mêmes modèles. C'est-à-dire que vous, est-ce que vous faites de l'autoréparation? Est-ce que vous proposez des alliés ou est-ce que c'est une activité professionnelle?
Non, c'est une activité professionnelle, vraiment avec des professionnels. On D'accord. essaye d'être professionnels.
Oui.
Non, c'est vraiment, on peut pas. C'est pas des réparations qu'on peut faire à tout à chacun.
Il y a des bénévoles de ADEPA ou quoi, je veux dire des adhérents d'ADEPA qui réparent.
Alors tout à fait, on a des bénévoles qui viennent apprendre souvent. Ils apprennent, ils font du démantèlement, il y a un peu de toutes les activités. Voilà, ça, on est ouvert à tous les bénévoles. Et sinon, voilà, on fait vraiment de la réparation informatique. Hein.
Parce que vous avez donc une équipe de techniciens sur place qui...
Voilà, on est deux techniciens, sans compter les stagiaires et éventuellement les bénévoles. Et nous faisons de la réparation en continu.
D'accord.
C'est la principale de nos activités de la journée.
En plus, on accueille régulièrement en formation des stagiaires. Ça peut être des stagiaires de 3e, ça peut être des stagiaires qui ont besoin, dans le cadre de leurs études à l'IUT, d'avoir des stages ou en alternance ou autre. Des gens de l'AFPA, on accueille aussi en formation.
D'accord.
Ça, c'est important.
Oui, donc vous participez à la formation professionnelle.
Absolument, on a un rôle à ce niveau-là.
Il y a toujours deux stagiaires, toujours. Voilà. Pratiquement.
Et on organise aussi des formations, pour des gens qui sont un peu embêtés avec leur téléphone portable ou avec leurs ordi, parce qu'ils n'arrivent pas à envoyer une photo, parce qu'ils ont un besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en place depuis plusieurs fois. On le fait à la bibliothèque Maurice Genevoix. On a des ateliers où il y a des gens qui viennent avec leur propre matériel et on les aide. Ils nous posent leurs questions, ils sont sur leur matériel, parce que des fois, on a besoin de ça.
Voilà. D'accord. Alors par contre, Vélo 41, là, on vous présentiez, c'est donc des ateliers d'autoréparation.
Ouais,
et donc, je suppose qu'il y a quand même des gens qui ont des connaissances à mettre à disposition, des gens qui auraient besoin de réparer leur machine.
Et donc, comme les bonnes manières, je dirais qu'on n'a pas le temps de réparer nous-mêmes, c'est-à-dire quand je dis nous-mêmes, c'est l'équipe, on va dire, bénévole active, on va dire, de Vélo 41, de réparer les vélos. Et donc en fait, c'est essentiellement les gens qui viennent réparer leur vélo et nous, on fait que transmettre nos savoirs. Et donc en fait, l'équipe et en fait par eux-mêmes, les autres bénévoles qui ont ces savoirs, les transmettent aux personnes qui veulent réparer leur vélo et ainsi en fait réparent leurs objets. Et quand on a le temps pour être capable de proposer pas mal de vélos à la vente, On répare les vélos qu'on a en stock. Voilà.
D'accord. Et donc du coup, la réparation, elle se fait à l'aide d'outils que vous mettez à disposition des adhérents de l'association.
C'est ça. Donc en fait, on a tous les outils nécessaires et les, on va dire les.
Et un stock de pièces détachées.
Les
aussi.
Pièces détachées, les consommables nécessaires, voilà, chambre à air, rustine, pneus, qu'il faut, tout l'essentiel qu'il faut pour réparer un vélo.
D'accord. Donc en échangeant, en fait, on se rend compte que c'est aussi une économie à part entière. C'est vrai que c'est un secteur qui est peut-être dont on parle peut-être moins. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le facteur écologique parce que c'est une thématique qui est forte. Hein, on sent bien qu'il y a une montée de fond sur la question de l'écologie. Mais pour autant, il y a un développement économique derrière tout ça. C'est-à-dire que chaque association là produit de la richesse avec des objets qu'elle va remettre un petit peu en circulation. Ouais. Est-ce que voilà, vous pouvez nous parler un petit peu de votre modèle économique, puisque vous en avez différents. Il y a des associations avec bénévoles, associations avec des salariés. Un petit peu, comment est-ce que vous arrivez à faire vivre vos structures respectives?
Alors, si vous me permettez, nous, on démarre notre activité, donc on est un peu, pas hors voilà, catégorie, mais nous, on a commencé sur des appels à projets régionaux et européens, à vos idées et leaders. Qui ont permis de nous financer depuis notre ouverture en juin 2017 et qui vont courir jusque dans le courant du printemps. On est à peu près à 60% donc de financement public pour 40% de recettes propres. Donc on voit bien que même si ces 40% d'autofinancement génèrent en effet une activité, il faut quand même pouvoir compléter derrière.
Bien sûr.
Avec 60%. Donc on espère peut-être à terme travailler avec la collectivité en fait en charge des déchets. Aglopolis, on a des discussions autour de ce sujet. Ce qui se passe ailleurs pour les ressourceries, c'est en fait un transfert de charge, c'est-à-dire que ce n'est pas une subvention directe. On considère qu'il y a un tonnage, que le tonnage, le traitement du déchet par tonne coûte. Alors, sur le territoire d'Aglopolis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on, pour le coup, on n'est pas très cher parce qu'on a l'incinérateur qui fait bien son travail, qui est à la fois une solution et un problème. Mais bon, ça, c'est peut-être un autre sujet. Il me semble qu'on est un peu moins de 200 euros la tonne ici. Je pense ne pas me tromper. Imaginons que nous soyons à 200 euros la tonne. Si on, nous,
pour le traitement par incinération
pour, voilà. Pour le traitement en général, incinération et autres solutions, on considère que nous, ce qui passe par nos structures est détourné, est un flux détourné et qui donc n'est pas traité par la collectivité. Donc on demande d'être compensé à ce titre-là. C'est-à-dire que si on fait 100 tonnes par an à 200 euros la tonne, ça fait 20 000 euros, grosso modo, pour faire simple.
Voilà.
Après, ça peut être des aménagements à côté, ça peut être des mises à disposition de locaux, des mises à disposition de véhicules, de matériel. Enfin, après, ça peut être en nature, ça peut être en direct. Il y a plein de solutions. Mais il faut le voir comme un transfert de charge et non pas comme un coût supplémentaire. Donc, en effet, ça reste quand même, nos structures restent des vecteurs quand même de création de richesses. Pour aller sur l'emploi, puisque ça fait partie du fondement, on va dire, des principes vraiment fondateurs des ressourceries. Il y a l'aspect environnemental, évidemment, on est en train d'en parler. L'aspect social, parce qu'on offre des solutions pour des publics parfois en difficulté ou précaires, des solutions relativement faciles d'accès. Mais il y a aussi une vocation économique par la création d'emplois. Nous, actuellement, à la ressourcerie Les Bonnes Manières, nous sommes l'équivalent de 3 emplois temps plein, à peine 3 emplois temps plein pour 4 salariés. Il y a donc les deux cofondateurs, ma collègue Muriel Lerneau, qui est responsable de site, moi je suis chargé de développement, on est tous les deux à temps partiel, on a notre animatrice qui s'occupe des ateliers, on va dire ludiques, de réparation ou de création, qui est sur un tout petit temps partiel de 14 heures, et on a un premier contrat aidé qui s'occupe de l'accueil des apports volontaires qui est là à 21h semaine. Voilà, et on a également l'équivalent de 3 emplois temps plein bénévoles qui se répartissent sur une vingtaine de bénévoles réguliers. Donc on voit bien aujourd'hui que nous, la solution, le modèle économique qu'on a choisi, c'est d'être une ressourcerie citoyenne. On n'a pas cherché à faire de l'insertion professionnelle, par exemple. On en fait à la marge, forcément, puisqu'on a un contrat aidé, mais à la marge, on n'est pas un atelier chantier d'insertion. Et en tout cas, cette implication citoyenne, on l'a voulu dès le départ, et on voit qu'elle représente la moitié de l'activité. Voilà. Donc de toute façon, c'est vrai qu'on est quand même sur un modèle un peu hybride où on voit bien que l'implication des citoyens est très importante.
Et même indispensable à la vie de la structure peut-être ?
Indispensable. Chez nous, on ne peut pas faire sans. Ouais. Voilà. Sans les bénévoles, ce n'est pas possible.
Alors du coup, vous l'ADEPA aussi, vous salariez un certain nombre de personnes.
Alors,
est-ce que du coup, quel est un peu votre modèle économique ? Comment est-ce que vous arrivez à faire tourner la structure ?
Alors l'association ADEPA, en fait, elle tourne avec 3 salariés. Donc 2 techniciens, un responsable technique qui est Pierre, notre secrétaire comptable Isabelle et Sébastien, notre technicien, donc qui sont tous les 3 des salariés de l'association. On a 3 bénévoles qui sont régulièrement, qui viennent régulièrement, que j'en profite pour remercier autant que les salariés qui font tourner l'ADEPA. Alors, au niveau financier, les seules subventions que l'on ait, c'est les subventions qu'on appelle les CAPASSO, pour permettre de payer une partie des charges de nos 3 contrats actuels.
D'accord.
En fait,
hein. Oui, le CAPASSO, c'est une subvention de la région centre
qui
accompagne le financement de postes salariés dans l'association.
Voilà, de postes pérennes de salariés. Et autrement,
votre activité,
vivons de dons.
D'accord.
C'est les dons, c'est
est-ce que les recettes,
bouche à oreille.
Vous avez une boutique dans laquelle on peut venir acheter du matériel ?
Absolument.
Est-ce que c'est une activité, est-ce que c'est une ressource importante pour votre association ?
C'est une bonne ressource quand même, c'est un bon pourcentage de nos revenus. C'est-à-dire que c'est les ordinateurs que nous reconditionnons, que nous remettons à neuf et que nous remettons en vente. Donc ça, c'est une bonne partie de notre revenu.
Absolument.
C'est moitié-moitié avec pratiquement la réparation.
D'accord.
Voilà. Donc oui, c'est assez important. Et les gens qui font des dons, c'est notre salaire, hein, vraiment.
Voilà, c'est vraiment, on n'a pas réellement, en dehors des CAPASSO, on n'a pas de subvention, on tourne un peu nous-mêmes. Hein, voilà, donc ça demande de se faire connaître. C'est pour ça que je vous remercie de nous avoir invités là, autour de cette table, parce que c'est vrai qu'on a tous besoin de se faire connaître. Et l'ADEPA attend aussi beaucoup de cette réflexion de l'Aglopolis pour créer un pôle ressourcerie dans lequel Vélo 41, les bonnes manières, ADEPA, entre autres, se retrouveraient dans un même lieu. Et ça, ce serait vraiment idéal pour la ville de Blois et Aglopolis.
Je prendrai votre sentiment sur la question, mais peut-être qu'on peut juste parler un peu de vous, de votre modèle économique, puisque vous travaillez uniquement avec des bénévoles.
C'est ça. Donc, depuis toujours, Vélo 41 a fonctionné avec des bénévoles. Et maintenant qu'il y a la partie, depuis 5-6 ans, depuis qu'il y a la partie vraiment atelier, on va dire que le nombre de bénévoles a augmenté. On va dire qu'on est une dizaine de bénévoles très actifs. Et après, on peut élargir à une vingtaine de bénévoles actifs et réguliers, mais pas forcément toutes les semaines, etc. Pas à la même fréquence.
Quels sont vos besoins financiers, vous, puisque vous avez des bénévoles ?
Nos besoins financiers, en fait, ils sont assez... C'est toujours le problème, ce qui coûte cher pour nous, c'est la place, donc c'est le local. Donc c'est pour ça qu'on a milité là pendant longtemps pour essayer d'avoir un local, etc. Celui qu'on va avoir à la Quinière, qui aura aussi des contraintes. Mais même si ce n'est pas le local idéal, le grand pas qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a notre local et qu'il est mis à disposition, donc qu'on ne le paye pas. Et donc ça, c'est une subvention en fait en nature, mais qui est très importante parce que voilà, on n'a pas ça. On n'a pas ce poids sur nos épaules. Et après, sinon, comme besoin, tant qu'on n'a pas de grands projets, si on reste vraiment l'atelier hebdomadaire pendant 2 heures comme on est aujourd'hui, l'association se maintient. Mais par contre, voilà, c'est ce que je vois là quand on écoute la vie des autres associations, quand Cédric présente la ressourcerie par exemple, c'est que c'est pas forcément le bon mot, mais pour faire vivre une association, pour que les gens comprennent les horaires d'ouverture, qu'ils comprennent comment ils peuvent s'engager dans la vie de Vélo 41 ou autrement, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, ou qu'est-ce que ça peut leur faire découvrir, et pas forcément des choses liées au vélo. Hein. Je pense qu'il y aura besoin que quelqu'un travaille peut-être pour Vélo 41 dans les mois à venir ou dans l'année à venir, et pour que l'activité de l'association soit plus lisible, pas pour remplacer le travail des bénévoles, hein, parce que sinon c'est pas intéressant, mais pour le mettre en valeur, quoi.
D'accord. Alors, et du coup, votre ressenti par rapport à cette demande quelque part, en tout cas cette envie d'avoir un pôle où on pourrait retrouver différentes structures qui travaillent sur des questions, on va dire, connexes. C'est quelque chose que vous aussi vous appelez de vos voeux ?
Ouais, alors donc comme l'a dit aussi Cédric au début, nous notre fer de lance au départ, c'est pas forcément le réemploi, mais c'est vrai que maintenant c'est une des choses qui nous a fait connaître et qui nous a mis en valeur. Donc c'est pour ça qu'on est toujours, même si on a trouvé un autre local, c'est pas un autre local d'ailleurs, c'est même si on a trouvé un local en ce moment, on reste super intéressé par ce projet qui fédère beaucoup d'acteurs du réemploi, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément autour de cette table. Là, c'était ça qui était intéressant.
On peut les citer, du coup.
Voilà. Donc là, vous allez m'aider, les autres. Mais par exemple, un des acteurs qui me vient en tête et qui est peut-être le seul à être un acteur privé, c'est l'entreprise, la SNR, donc, la SNR 41, donc, qui s'occupe de la collecte de beaucoup de déchets et du tri sur Blois. Donc, par exemple, pour ceux qui habitent dans le centre-ville, les personnes qui récupèrent les cartons dans le centre-ville de Blois, ça, c'est la SNR. Et donc, la différence avec nous, c'est qu'c'est une entreprise privée dont l'objectif, comme toute entreprise, est de gagner de l'argent et de faire vivre des gens. Donc, c'est ça qui est intéressant de les avoir comme interlocuteurs.
Alors, il en est où, ce projet ?
Juste une précision, c'est une entreprise privée, mais c'est un chantier d'insertion, il me semble. Enfin, en tout cas, il y a de l'insertion professionnelle derrière, quand même.
Oui, oui, bien
sûr. Donc, on partage quand même quelques
valeurs. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors, du coup, ce projet, il en est où, du coup,
Il y a des
réunions régulières.
C'est compliqué, du coup, de parler de la place des services de l'aglo et des élus qui sont en réflexion là-dessus. Les choses avancent, les contours ne sont pas forcément dessinés. Par contre, il y a une volonté, il y avait notre volonté qui était présente. Et aujourd'hui, on est assuré qu'il y a une volonté, en tout cas, d'Aglopolis, de faire quelque chose. Après, quoi exactement, on ne sait pas. Il y avait différents scénarios possibles. Il y avait donc ce qu'on appelait un projet de plateforme du réemploi, il y avait une version, on va dire, physique et non physique. Il y avait déjà un volet coopération entre nos différentes structures. Donc ça, je pense que c'est un niveau qu'on peut atteindre. Et puis, il y avait, en effet, une aide logistique qui passe avant tout par un local, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais nous sommes des structures précaires par rapport à tout ce qui est...
Place.
On manque de place. On est tous chez des bailleurs privés, sauf Vélo 41 maintenant. Enfin, voilà, maintenant et avant aussi.
Mais
vous étiez dans un lieu partagé.
On peut déjà dire qu'on manque de place avec 50 mètres carrés.
Voilà, non, mais c'est ça. Donc, de toute façon, là-dessus, c'est une aide bienvenue s'il y en a une. Quand on a besoin d'espace, c'est aussi la dépense. Loyer, c'est aussi une grosse dépense.
C'est pour nous tous une grosse charge, hein, que ce soit pour ADEPA, les bonnes manières ou Vélo 41, c'est vraiment une grosse charge.
Et puis c'est une source de soucis, en fait, tout simplement, quoi. C'est,
oui.
Parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, quoi. Comment on va faire, voilà.
Ouais.
Et c'est vrai que de répondre à cette question, peut-être que c'est la possibilité de passer à autre chose.
Oui, tout à fait. Oui, et puis après, nous, on parlait de l'implication des bénévoles. Nous, on est dans un local, on est bien content de l'avoir trouvé à l'origine, mais dans lequel il fait très froid l'hiver, très chaud l'été, et ne serait-ce que de proposer de bonnes conditions de travail à nos bénévoles, ce serait la moindre des choses. Voilà, après, on se dit quand ils passent l'hiver, c'est qu'ils sont vraiment motivés.
Oui, puis c'est super sympa d'être ensemble aussi.
Oui, puis c'est aussi la possibilité de travailler sur des projets.
C'est ça, on peut ramener nos fers à souder chez eux, et vice-versa, intéressant.
Et voilà, pour faire travailler les savoir-faire de chacun, ce serait beaucoup plus simple d'être soit ensemble, soit au moins à proximité.
Oui, voilà.
Enfin, voilà, d'être dans un périmètre...
Vu qu'on s'entend bien.
Ouais.
Oui.
Pour l'instant, on n'a jamais travaillé vraiment ensemble sous le même toit, c'est peut-être ça.
Ouais, après, c'est vrai.
un des défis aussi sur ce projet de réemploi, c'est que comme on a besoin de place, en fait, cette place, par exemple, Cédric, qui peut-être... dire la place que l'espace qu'a besoin de la ressourcerie pour son activité, on va dire l'espace idéal, mais juste dans des grandes fourchettes, mais pour qu'on réalise en fait le...
Alors en fait on en revient au gisement au départ où on disait il y avait 1200 tonnes possibles, donc en fait si on voulait répondre réellement à ce besoin, en fait là on est sur du coup économiquement quelque chose que Aglopolis n'envisage pas, mais
c'est pas grave, juste pour
qu'on pourrait être sur 3000 mètres carrés dans un idéal absolu pour essayer d'éponger justement tous ces objets qui peuvent retrouver une seconde vie.
D'accord. Pour visualiser un petit peu, ce que je visualise mal 3000 mètres carrés, c'est quoi, c'est l'espace d'un supermarché à peu près?
C'est un supermarché. Aglopolis avait d'ailleurs imaginé un moment qu'on puisse reprendre un supermarché. Il me semble que la superficie était de 2600 mètres carrés.
D'accord.
Voilà, donc ça donne une idée. On était en effet sur les objectifs, mais encore là, c'est toutes, enfin, nos trois structures réunies, plus SNR dont on parlait, qui pourrait être dans la boucle en tant que collecteur, etc. Il faut de l'espace pour mettre des bennes, comme dans une déchetterie, tout ce qui part en recyclage.
Ouais. Oui, tout l'espace, parce qu'il y a un espace d'accueil de public, puis il y a tout le reste autour. Quoi.
Oui.
Voilà, oui.
Alors qu'on s'occupe des affaires, il faut les stocker. Quoi.
Chez nous actuellement, pardon, pour vous donner une idée, on a 400 mètres carrés, ce qui est peu, c'est 200 mètres carrés, c'est plus de 200 mètres carrés de stock et d'atelier pour 170 mètres carrés de boutique. Voilà. C'est à peu près les proportions, je crois, à peu près. Enfin, ça dépend comment on arrive à optimiser.
C'est beaucoup de stockage, en fait. Hein.
Ouais.
Que tout repart pas dans le circuit aussi vite.
Et puis on est des ressourceries, donc nous par exemple on stocke beaucoup de pièces détachées, des transformateurs, des écrans, des claviers, enfin tout ça prend beaucoup de place aussi, et on a besoin de cette place. Donc ça c'est un minimum de place perdue de toute façon. Donc,
pour mettre un peu de poil à gratter, quoi, la difficulté aussi c'est que on a besoin de place, mais par exemple le stock n'a pas forcément besoin d'être, disons une bêtise, mais en hypercentre. On n'a pas besoin d'avoir, je sais pas, 1200 vélos stockés dans le centre-ville de Blois, alors que l'activité du Vélo 41 aurait peut-être un jour intérêt à être dans le centre-ville de Blois. J'invente un peu, hein, c'est pas ce qu'on projette. Et donc le défi, c'est qu'à la fois, on a envie de mutualiser des moyens, et ça, c'est super intéressant, mais plus on se mutualise, plus on grossit, plus on est gros. Et c'est là qu'on voit que la surface, pour pas dire franchement, immobilière dans Blois, là où il y a de la surface, c'est à l'extérieur de la ville. Et c'est là aussi que ça pose problème des fois, c'est que si on est beaucoup et peut-être trop des fois à vouloir trop mutualiser, on va se retrouver, on pourrait se retrouver à l'extérieur de Blois ou à la frange de Blois. Et là, c'est ça aussi, quand on en discutait, qui pouvait être rentré en contradiction dans notre manière d'aborder la vie associative. Et on avait tous envie de participer à une vie de quartier, c'est déjà ce qui se passe en Vienne, oui, c'est oui. peut-être déjà ce qui se passe dans le, puis, à la DEPA, je ne sais pas. Mais ce qui se passe
et, puis, pour, et puis peut-être d'être en contradiction avec certaines convictions, oui. c'est-à-dire je vais à vélo 41 mais je suis obligé d'aller en voiture.
Voilà, exactement. En fait, on ne peut pas cautionner l'étalement urbain, c'est-à-dire que nous, on a quand même vocation à écologiquement permettre voilà, de bonnes pratiques, etc. C'est vrai que du coup, si on joue le jeu l'étalement urbain, moi ça me semble un petit peu insoluble. Puis après, il y a une réalité économique. Hein. Nous, le fait d'être dans un quartier avec des gens qui habitent, bah, c'est aussi une source de revenus,
de bénévoles,
mais c'est aussi une pérennité par rapport à nos, voilà, par rapport à nos revenus, parce qu'on a une clientèle régulière. Je dis clientèle, même si c'est des bénéficiaires et des usagers, mais on voit bien aujourd'hui qu'on a répondu à un besoin, et les gens nous le disent. C'est-à-dire que on est là pour sensibiliser les gens en disant, avant d'aller acheter du neuf, regardez si éventuellement vous ne pouvez pas trouver quelque chose en seconde main. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à Blois-Vienne, à part le magasin de fourrure, il n'y a pas de magasin de vêtements. C'est-à-dire que nous, on a des petites dames qui viennent chez nous parce qu'on est le magasin de vêtements du quartier. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elles se sensibilisent à cette idée de, voilà, d'acheter de l'occasion, etc. Non pas par idéologie ou par conviction, mais parce que du coup, ça répondait à un besoin dans le quartier. Et du coup, nous, on est attachés, en tout cas, les bonnes manières, on est attachés à rester dans le quartier, à la fois pour répondre à ce besoin au niveau des usagers et à la fois pour nous, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, économiquement, ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. Disons qu'on demandera un petit peu moins de subventions à terme aux collectivités si on est dans une zone où il y a des gens qui vivent et qui consomment chez nous.
Mais il y a ça d'une part, puis sociologiquement, on a un pays qui vieillit. On a des gens qui sont un peu moins autonomes qu'il y a quelques années, en proportion, je veux dire. Il est quand même plus intéressant qu'on soit quand même plus placé près du centre-ville.
Oui, à côté des gens que voilà.
Voilà, c'est assez compliqué pour de plus en plus de gens. Nous, on se rencontre tous les jours. Des gens qui peinent même à descendre un ordinateur. Donc, je me dis que ça va se multiplier et que oui, on a tout intérêt d'être au plus proche en fait des gens.
Très bien. Bon bah, je merci pour toutes ces informations. C'était très intéressant.
Merci à vous. À vous.
Merci Studio
Zeuf. Ouais, de rien. C'est toujours avec plaisir. C'est vrai que c'est des thématiques qui nous tiennent à cœur, hein, en tout cas. Donc voilà, je vous propose qu'on bascule un petit peu sur la musique. Et puis d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on reçoit le Sel de Blois et le Fab Lab pour parler de la mise en commun et de création de liens. Voilà. On continuera un petit peu à parler d'évoquer des choses qui ont été évoquées là, mais avec peut-être une entrée légèrement différente. Voilà. Merci pour vos témoignages.
Merci à Tuzef.
Et voilà, retour à la musique et à tout de suite.
Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller. Zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zeuf.